Chapitre 3. Ainsi leur vie fut bâtie sur une foi brûlante, faite de stoïcisme, de religion et de noble ambition. Tout l'être des deux enfants fut tendu vers ce but unique, le succès d'Olivier. Antoinette accepta toutes les tâches, toutes les humiliations. Elle fut institutrice dans des maisons où on la traitait presque en domestique. Elle devait escorter ses élèves en promenade, comme une bonne, trotter pendant des heures avec elle dans les rues, sous prétexte de leur apprendre l'allemand. Son amour pour son frère, son orgueil même, trouvait à ses souffrances morales et à ses fatigues une jouissance. Elle rentrait harassée pour s'occuper d'Olivier, qui passait la journée au lycée comme demi-pensionnaire et ne revenait que le soir. Elle préparait le dîner sur le fourneau à gaz ou sur une lampe à esprit de vin. Olivier n'avait jamais faim et tout le dégoûtait. La viande lui causait une répulsion. Il fallait le forcer à manger ou s'ingénier à lui faire de petits plats qui lui plussent. Et la pauvre Antoinette n'était pas une fameuse cuisinière. Après qu'elle s'était donné beaucoup de peine, elle avait la mortification de lui entendre déclarer que sa cuisine était immangeable. Ce ne fut qu'après bien des désespoirs devant son fourneau de cuisine, de ces désespoirs silencieux que connaissent les jeunes ménagères maladroites et qui empoisonnent leur vie et leur sommeil parfois, sans que personne en sache rien, qu'elle réussit à s'y connaître un peu. Après le dîner, quand elle avait lavé le peu de vaisselle dont ils usaient, ils voulaient l'aider dans cette besogne, mais elle n'y consentait point, elle s'occupait maternellement du travail de son frère. Elle lui faisait réciter ses leçons, elle lisait ses devoirs, elle faisait même certaines recherches pour lui, en prenant garde toujours de ne pas froisser ce petit être susceptible. Ils passaient la soirée à leur unique table, qui leur servait à la fois pour prendre leur repas et pour écrire. Il faisait ses devoirs, elle cousait ou faisait de la copie. Quand il était couché, elle s'occupait de l'entretien de ses vêtements ou travaillait pour elle. Quelles que fussent leurs difficultés à se tirer d'affaire, ils décidèrent que tout l'argent qu'ils réussiraient à mettre de côté servirait avant tout à les libérer de la dette que leur mère avait contractée vis-à-vis des Poyet. Ce n'était pas que ceux-ci fussent des créanciers gênants. Ils n'avaient pas donné signe de vie. Ils ne pensaient plus à cet argent qu'ils croyaient définitivement perdu. Ils s'estimaient trop heureux d'être débarrassés à ce prix de leurs parents compromettants. Mais l'orgueil des deux enfants et leur piété filiale souffraient que leur mère dût rien à ces gens qu'ils méprisaient. Ils se privèrent. Ils liardèrent sur leurs moindres distractions, sur leurs vêtements, sur leur nourriture, pour arriver à amasser ces 200 francs, une somme énorme pour eux. Antoinette eût voulu être seule à se priver, mais quand son frère devina son intention, rien ne put l'empêcher de faire comme elle. Il s'épuisait à cette tâche, heureux quand il pouvait mettre de côté quelques sous par jour. À force de privation, en 3 ans, sous par sous, ils parvinrent à réunir la somme. Ce fut une grande joie. Antoinette alla chez les Poyet un soir. Elle fut reçue sans bienveillance, car ils croyaient qu'elle venait demander le secours. Ils jugèrent bon de prendre les devants en lui reprochant amèrement de ne leur avoir donné aucune nouvelle, de ne leur avoir même pas appris la mort de sa mère et de ne venir que quand elle avait besoin d'eux. Elle les interrompit, disant qu'elle n'avait pas l'intention de les déranger. Elle venait simplement rapporter l'argent qu'elle leur avait emprunté. Et déposant sur la table les 2 billets de banque, elle demanda quittance. Ils changèrent aussitôt de manière et feignirent de ne pas vouloir accepter. Ils éprouvaient pour elle cette affection subite que ressent le créancier pour le débiteur qui lui rapporte, après des années, l'argent d'une créance sur laquelle il ne comptait plus. Ils cherchèrent à savoir où elle habitait avec son frère et comment il vivait. Elle évita de répondre, demanda de nouveau la quittance, dit qu'elle était pressée, salua froidement et partit. Les Poyet furent outrés contre l'ingratitude de cette fille. Délivrée de cette obsession, Antoinette continua la même vie de privation, mais pour Olivier maintenant. Elle se cachait davantage pour qu'il ne le sût pas. Elle économisait sur sa toilette et parfois sur sa faim, pour la toilette de son frère et pour ses distractions. Pour rendre sa vie plus douce et plus ornée, pour lui permettre d'aller de temps en temps au concert ou même au théâtre de musique. le plus grand bonheur d'Olivier. Il n'eût pas voulu y aller sans elle, mais elle trouvait des prétextes pour s'en dispenser et lui enlever ses remords. Elle prétendait qu'elle était trop lasse, qu'elle n'avait pas envie de sortir, et même que cela l'ennuyait. Il n'était pas dupe de ce mensonge d'amour, mais son égoïsme l'emportait. Il allait au théâtre, et une fois qu'il était là, ses remords le reprenaient. Il y pensait tout le temps du spectacle. Son bonheur était gâté. Un dimanche qu'elle l'avait envoyé au concert du Châtelet, il revint au bout d'une demi-heure, disant à Antoinette qu'arrivé au pont Saint-Michel, il n'avait pas eu le courage d'aller plus loin. Le concert ne l'intéressait plus, cela lui faisait trop de peine d'avoir du plaisir sans elle. Rien ne fut plus doux à Antoinette, quoiqu'elle eût du chagrin que son frère se fût privé, à cause d'elle, de sa distraction le dimanche. Mais Olivier ne pensait pas à la regretter. Quand il avait vu, en rentrant, le visage de sa sœur rayonner d'une joie qu'elle s'efforçait en vain de cacher, il s'était senti plus heureux qu'il n'aurait pu l'être en entendant la plus belle musique du monde. Ils passèrent cet après-midi, assis en face l'un de l'autre, près de la fenêtre, lui un livre à la main, elle avec un ouvrage, ne cousant ni ne lisant guère, et parlant de petits riens qui n'avaient d'intérêt ni pour lui ni pour elle. Jamais dimanche ne leur parut plus doux. Ils convinrent de ne plus se séparer pour aller au concert. Ils n'étaient plus capables d'avoir du bonheur, seuls. Elle réussit à économiser en cachette assez pour faire à Olivier la surprise d'un piano loué qui, d'après un système de location, au bout d'un nombre de mois, devait leur appartenir tout à fait. Lourde obligation qu'elle contractait encore. Ces échéances furent souvent un cauchemar. Elle ruinait sa santé à trouver l'argent nécessaire. Mais cette folie leur assurait un tel bonheur à tous deux. La musique était leur paradis dans cette dure vie. Elle prit une place immense. Ils s'en enveloppaient pour oublier le reste du monde. Ce n'était pas sans danger. La musique est un des grands dissolvants modernes. Sa langueur chaude d'étuve ou d'automne énervant surexcite les sens et tue la volonté. Mais elle était une détente pour une âme contrainte à une activité excessive et sans joie, comme celle d'Antoinette. Le concert du dimanche était la seule lueur qui brilla dans la semaine de travail sans relâche. Il vivait du souvenir du dernier concert et de l'espoir du prochain, de ces 2 ou 3 heures passées hors du temps, hors de Paris. Après une longue attente dehors, par la pluie ou la neige, ou le vent et le froid, serrés l'un contre l'autre, et tremblant qu'il n'y eût plus de place, ils s'engouffraient dans le théâtre, où ils étaient perdus dans une cohue, à des places étroites et obscures. Ils étouffaient, ils étaient écrasés, et tout près de se trouver mal de chaleur et de gêne. Et ils étaient heureux, heureux de leur propre bonheur et du bonheur de l'autre, heureux de sentir couler dans leur cœur les flots de bonté, de lumière et de force, qui ruisselaient des grandes âmes de Beethoven et de Wagner, heureux de voir s'éclairer le cher visage fraternel, ce visage pâli par les fatigues et les soucis prématurés. Antoinette se sentait si lasse et comme dans les bras d'une mère qui la serrait contre son sein. Elle se blottissait dans le nid doux et tiède, et elle pleurait tout bas. Olivier lui serrait la main. Personne ne prenait garde à eux, dans l'ombre de la salle monstrueuse, où ils n'étaient pas les seules âmes meurtries qui se réfugiaient sous l'aile maternelle de la musique. Antoinette avait aussi la religion qui continuait de la soutenir. Elle était très pieuse. Elle ne manquait jamais de faire, chaque jour, de longues et ardentes prières, ni d'aller chaque dimanche à la messe. Dans l'injuste misère de sa vie, elle ne pouvait s'empêcher de croire à l'amour de l'ami divin qui souffre avec vous et qui un jour vous consolera. Plus encore qu'avec Dieu, elle était en communion intime avec ses morts et elle les associait en secret à toutes ses épreuves. Mais elle était indépendante d'esprit et de ferme raison. Elle restait à part des autres catholiques et n'était pas très bien vue d'eux. Ils trouvaient en elle un mauvais esprit. Ils n'étaient pas loin de la regarder comme une libre penseuse ou sur le chemin de l'être, parce qu'en bonne petite française, elle n'entendait pas renoncer à son libre jugement. Elle croyait non par obéissance comme le vil bétail, mais par amour. Olivier ne croyait plus. Le lent travail de désagrégation de sa foi, commencé dès les premiers mois à Paris, l'avait détruite tout entière. Il en avait cruellement souffert, car ils n'étaient pas de ceux qui sont assez forts ou assez médiocres pour se passer de la foi. Aussi avaient-ils traversé des crises d'angoisse mortelle. Mais ils gardaient le cœur mystique, et si un croyant qu'il fût devenu, nulle pensée n'était plus près de lui que celle de sa sœur. Ils vivaient l'un et l'autre dans une atmosphère religieuse. Quand ils rentraient, chacun de son côté, le soir, après avoir été séparés tout le jour, leur petit appartement était pour eux le port, l'asile inviolable, pauvre, glacé, mais pur. Comme ils s'y sentaient loin des pensées corrompues de Paris. Ils ne causaient pas beaucoup de ce qu'ils avaient fait, car lorsqu'on revient fatigué, on a guère le cœur à revivre, en la racontant, une pénible journée. Ils s'appliquaient instinctivement à l'oublier ensemble. Surtout pendant la première heure, où ils se retrouvaient au dîner du soir, ils prenaient garde de ne pas se questionner. Ils se disaient « bonsoir » des yeux, et parfois ils ne prononçaient pas une parole de tout le repas. Antoinette regardait son frère, qui restait à rêvasser devant son assiette, comme autrefois quand il était petit. Elle lui caressait doucement la main. « Allons, » disait-elle en souriant, « courage !» Il souriait aussi et se remettait à manger. Le dîner se passait sans qu'ils fissent un effort pour causer. Ils étaient affamés de silence. À la fin seulement, leur langue se déliait un peu lorsqu'ils se sentaient reposés et que chacun, entouré de l'amour discret de l'autre, avait effacé de son être les traces impures de la journée. Olivier se mettait au piano. Antoinette se déshabituait d'en jouer afin de le laisser jouer, car c'était l'unique distraction qu'il eut. Et il s'y donnait de toutes ses forces. Il était très bien doué pour la musique. Sa nature féminine, mieux faite pour aimer que pour agir, épousait les pensées des musiciens qu'il jouait, se fondait avec elles, rendait leurs moindres nuances avec une fidélité passionnée, autant que le lui permettaient, du moins, ses bras et son souffle débile, que brisait l'effort titanique de Tristan ou des dernières sonates de Beethoven. Aussi se réfugiait-il de préférence en Mozart et en Gluck, et c'était également la musique qu'elle préférait. Parfois elle chantait aussi, mais des chansons très simples, de vieilles mélodies. Elle avait une voix de mezzo, voilée, grave et fragile, si timide qu'elle ne pouvait chanter devant personne, à peine devant Olivier. Sa gorge se serrait. Il y avait un air de Beethoven sur des paroles écossaises qu'elle aimait particulièrement, le fidèle Johnny. Il était calme, calme, et une tendresse au fond. Il lui ressemblait. Olivier ne pouvait le lui entendre chanter sans des larmes aux yeux. Elle préférait écouter son frère. Elle se hâtait de terminer le ménage, et elle laissait la porte de la cuisine ouverte afin de mieux entendre Olivier. Mais, malgré les précautions qu'elle prenait, il se plaignait impatiemment qu'elle fît du bruit en rangeant la vaisselle. Alors elle fermait la porte, et quand elle avait fini, elle venait s'installer dans une chaise basse, non pas près du piano, car il ne pouvait souffrir d'avoir quelqu'un près de lui quand il jouait, mais près de la cheminée. Et là, comme un petit chat, pelotonnée sur elle-même, le dos tourné au piano et les yeux attachés aux yeux d'or du foyer, où se consumait en silence une briquette de charbon, elle s'engourdissait dans les images du passé. Quand 9 heures sonnaient, il lui fallait un effort pour rappeler à Olivier qu'il était temps de finir. Il était pénible de l'arracher, de s'arracher à ses rêveries. Mais Olivier avait encore du travail pour le soir, et il ne fallait pas qu'il se couchât trop tard. Il n'obéissait pas tout de suite. Il avait besoin d'un certain temps pour pouvoir, au sortir de la musique, se remettre à la tâche. Sa pensée flottait ailleurs. La demie sonnait souvent avant qu'il fût dégagé des brouillards. Antoinette, penchée sur son ouvrage, de l'autre côté de la table, savait qu'il ne faisait rien, mais elle n'osait pas trop regarder de son côté, de peur de l'impatienter, en ayant l'air de le surveiller. Il était à l'âge ingrat, l'âge heureux, où les journées se passent à flâner. Il avait un front pur, des yeux de fille, roués et naïfs, souvent cernés, une grande bouche, aux lèvres gonflées, comme têteuses, au sourire un peu de travers, vague, distrait, polisson. Trop de cheveux qui descendaient jusqu'aux yeux et formaient presque un chignon sur la nuque, avec une mèche rebelle qui se dressait par derrière. Une cravate lâche autour du cou, sa sœur la lui nouait soigneusement chaque matin, un veston dont les boutons ne tenaient jamais bien qu'elle passât son temps à les recoudre. Pas de manchettes, les mains grandes aux poignets osseux. L'air narquois, ensommeillé, voluptueux, il restait indéfiniment à bâiller aux corneilles. Ses yeux, qui baguenaudaient, faisaient tout le tour de la chambre d'Antoinette. C'était chez elle qu'était la table de travail. Il se promenait sur le petit lit de fer au-dessus duquel était suspendu un crucifix d'ivoire avec une branche de buis. Sur les portraits de son père et de sa mère, sur une vieille photographie qui représentait la petite ville de province avec sa tour et le miroir de ses eaux. Lorsqu'ils arrivaient à la figure palote de sa sœur, qui travaillait silencieusement, il était pris d'une immense pitié pour elle et d'une colère contre lui-même. Il se secouait, irrité de sa flânerie. Il travaillait avec énergie pour rattraper le temps perdu. Les jours de congé, il lisait. Il lisait chacun de son côté. Malgré tout leur amour l'un pour l'autre, ils ne pouvaient pas lire ensemble le même livre tout haut. Cela les blessait comme un manque de pudeur. Un beau livre leur semblait un secret qui ne devait être murmuré que dans le silence du cœur. Quand une page les ravissait, au lieu de la lire à l'autre, ils se passaient le livre, le doigt sur le passage, et ils se disaient « Lis !» Alors, pendant que l'autre lisait, celui qui avait déjà lu suivait, les yeux brillants, sur le visage de son ami, les émotions, et il en jouissait avec lui. Mais souvent, accoudés devant leur livre, ils ne lisaient pas, ils causaient. À mesure que la soirée avançait, ils avaient plus besoin de se confier, et ils avaient moins de peine à parler. Olivier avait des pensées tristes, et il fallait toujours que cet être faible se déchargeât de ses tourments en les versant dans le sein d'un autre. Il était rongé par des doutes. Antoinette devait lui rendre courage, le défendre contre lui-même. C'était une lutte incessante qui recommençait chaque jour. Olivier disait des choses amères et lugubres, et quand il les avait dites, il était soulagé. Mais il ne s'inquiétait pas de savoir si maintenant elle n'accablait pas sa sœur. Il s'aperçut bien tard combien il l'épuisait. Il lui promettait sa force et infiltrait en elle ses propres doutes. Antoinette n'en montrait rien. Vaillante et gaie de nature, elle s'obligeait à rester gaie en apparence, alors que sa gaieté était depuis longtemps perdue. Elle avait des moments de lassitude profonde, de révolte contre la vie de sacrifice à laquelle elle s'était vouée. Mais elle condamnait ses pensées, elle ne voulait pas les analyser. Elle les subissait, elle ne les acceptait pas. La prière lui venait en aide, sauf quand le cœur ne pouvait prier, cela arrive, quand il était desséché. Alors il n'y avait qu'à attendre en silence, tout fiévreux et honteux, que la grâce revint. Jamais Olivier ne se doutait de ses angoisses. Dans ces moments, Antoinette trouvait un prétexte pour s'éloigner ou se renfermer dans sa chambre, et elle ne reparaissait que quand la crise était passée. Alors elle était souriante, endolorie, plus tendre qu'avant, ayant comme le remords d'avoir souffert. Leur chambre se touchait, leur lit était appliqué des deux côtés du même mur. Ils pouvaient se parler à mi-voix au travers, et quand ils avaient des insomnies, de petits coups frappés tout doucement au mur disaient « Dors-tu ? Je ne dors pas. » Si mince était la cloison, qu'ils étaient comme deux amis chastement couchés côte à côte dans le même lit. Mais la porte entre leurs chambres était toujours fermée, la nuit, par une pudeur instinctive et profonde, un sentiment sacré. Elle ne restait ouverte que lorsqu'Olivier était malade, ce qui arrivait trop souvent. Sa débile santé ne se rétablissait pas. Elle semblait plutôt s'altérer davantage. Il souffrait constamment de la gorge, de la poitrine, de la tête, du cœur. Le moindre rhume chez lui risquait de dégénérer en bronchite. Il prit la scarlatine et faillit en mourir. Même sans être malade, il présentait de bizarres symptômes de maladie grave qui, heureusement, n'éclataient pas. Il avait des points douloureux aux poumons ou au cœur. Un jour, le médecin qui l'auscultait diagnostiqua une péricardite ou une péripneumonie. Et le grand docteur spécialiste que l'on consulta ensuite confirma ses appréhensions. Cependant, il n'en fut rien. C'était surtout les nerfs qui étaient malades chez lui. Et l'on sait que ce genre de souffrance prend les formes les plus inattendues. On en est quitte pour des années d'inquiétude. Mais qu'elles étaient cruelles pour Antoinette. Que de nuits sans sommeil. dans son lit, d'où elle se levait souvent pour épier à la porte la respiration de son frère, elle était prise de terreur. Elle pensait qu'il allait mourir, elle le savait, elle en était sûre. Elle se dressait, frémissante, et elle joignait les mains, elle les serrait, elle les crispait contre sa bouche pour ne pas crier. « mon Dieu !» suppliait-elle. « Ne me l'enlevez pas. Non, cela, vous n'en avez pas le droit. Je vous en prie, je vous en prie. Oh, ma chère maman, viens à mon secours, sauve-le, fais qu'il vive. » Elle se tendait de tout son corps. Ah, mourir en chemin, quand on avait tant fait déjà, quand on était sur le point d'arriver, quand il allait être heureux. Non, cela ne se pouvait pas, ce serait trop cruel. Olivier ne tarda pas à lui donner d'autres inquiétudes. Il était profondément honnête, comme elle, mais de volonté faible et d'intelligence trop libre et trop complexe, pour n'être pas un peu trouble, sceptique, indulgente à ce qu'il savait mal et attiré par le plaisir. Antoinette était si pure qu'elle fut longtemps avant de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de son frère. Elle le découvrit brusquement un jour. Olivier la croyait sortie. Elle avait une leçon d'ordinaire à 7 heures. Mais, au dernier moment, elle avait reçu un mot de son élève l'avertissant qu'on se passerait d'elle aujourd'hui. Elle en avait eu un secret plaisir, bien que ce fût quelques francs supprimés de son maigre budget. Elle était très lasse, et elle s'étendit sur son lit. Elle jouissait de pouvoir se reposer un jour sans remords. Olivier rentra du lycée. Un camarade l'accompagnait. Ils s'installèrent dans la chambre à côté et se mirent à causer. On entendait tout ce qu'ils disaient. Ils ne se gênaient point, croyant qu'ils étaient seuls. Antoinette écoutait en souriant la voix joyeuse de son frère. Mais bientôt elle cessa de sourire et son sang s'arrêta. Il parlait de choses brutales, avec une crudité d'expression abominable. Il semblait s'y complaire. Elle entendait rire Olivier, son petit Olivier. Et de ses lèvres, qu'elle croyait innocentes, sortaient d'obscènes paroles qui la glaçaient d'horreur. Une douleur aiguë la perçait jusqu'au fond de son être. Cela dura longtemps. Il ne pouvait se lasser de parler, et elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Enfin ils sortirent, et Antoinette resta seule. Alors elle pleura. Quelque chose était mort en elle. L'image idéale qu'elle se faisait de son frère, de son enfant, était souillée. C'était une souffrance mortelle. Elle ne lui en dit rien quand ils se retrouvèrent le soir. Il vit qu'elle avait pleuré, et il ne put savoir pourquoi. Il ne comprit pas pourquoi elle avait changé de manière à son égard. Il fallut quelque temps avant qu'elle se ressaisît. Mais le coup le plus douloureux qu'il lui porta, ce fut un soir qu'il ne rentra pas. Elle l'attendit toute la nuit, sans se coucher. Elle ne souffrait pas seulement dans sa pureté morale. Elle souffrait jusque dans les retraites les plus mystérieuses de son cœur. Ces retraites profondes, où s'agitent des sentiments redoutables, sur lesquels elle jetait, pour ne pas voir, un voile qu'il n'est pas permis d'écarter. Olivier avait voulu surtout affirmer son indépendance. Il revint, au matin, se composant une attitude, prêt à répondre insolemment à sa sœur si elle lui faisait une observation. Il se glissa dans l'appartement sur la pointe des pieds pour ne pas l'éveiller. Mais quand il la vit, debout, l'attendant, pâle, les yeux rouges, ayant pleuré, quand il vit qu'au lieu de lui faire un reproche, elle s'occupait de lui en silence, préparait son déjeuner avant son départ pour le lycée, et qu'elle ne lui disait rien, mais semblait accablée, et que tout son être était un reproche vivant, il n'y résista pas. Il se jeta à genoux, il se cacha la tête dans sa robe, et ils pleurèrent tous deux. Il était honteux de lui, dégoûté de la nuit qu'il venait de passer. Il se sentait avili. Il voulut parler, elle l'empêcha de parler, lui mettant la main sur la bouche. Et il baisa cette main. Ils ne dirent rien de plus. Ils se comprenaient. Olivier se jura d'être celui qu'Antoinette attendait qu'il fût. Mais elle ne put oublier de sitôt sa blessure. Elle était comme une convalescente. Il y avait une gêne entre eux. Son amour était toujours aussi fort, mais elle avait vu dans l'âme de son frère quelque chose qui lui était maintenant étranger et qu'elle redoutait. Elle était d'autant plus bouleversée, parce qu'elle l'entrevoyait dans le cœur d'Olivier, qu'à la même époque, elle avait à souffrir des poursuites de certains hommes. Quand elle rentrait, le soir, à la nuit tombante, surtout quand il lui fallait sortir après dîner pour chercher ou rapporter un travail de copie, ce lui était une angoisse insupportable d'être accosté, suivi et d'entendre des propositions grossières. Toutes les fois qu'elle pouvait emmener son frère avec elle, elle le faisait, sous prétexte de le forcer à se promener. Mais il ne s'y prêtait pas volontiers et elle n'osait insister. Elle ne voulait pas troubler son travail. Son âme virginale et provinciale ne pouvait se faire à ses mœurs. Paris, la nuit, était pour elle une forêt où elle se sentait traquée par des bêtes immondes. Elle tremblait de sortir du gîte. Cependant, il fallait sortir. Elle fut longtemps avant d'en prendre son parti, et elle en souffrit toujours. Et quand elle pensait que son petit Olivier serait, était peut-être, comme un de ces hommes qui lui faisaient la chasse, elle avait peine, en rentrant, à lui donner la main pour lui dire bonsoir. Il n'imaginait pas ce qu'elle pouvait avoir contre lui. Sans être très jolie, elle avait un grand charme et attirait les regards, quoiqu'elle ne fît rien pour cela. Très simplement vêtue, presque toujours en deuil, pas très grande, fluette, l'air délicat, ne parlant guère, glissant silencieusement au travers de la foule, en fuyant l'attention, elle la retenait par l'expression de suavité profonde de ses doux yeux fatigués et de sa petite bouche pure. Elle s'apercevait quelquefois qu'elle plaisait. Elle en était confuse, contente tout de même. Qui dira ce qui peut entrer, à son insu, de gentiment, de chastement coquet, dans une âme tranquille, qui sent le contact sympathique d'autres âmes. Cela se traduisait par une légère gaucherie dans les gestes, un regard timide jeté de côté. Et c'était à la fois plaisant et touchant. Ce trouble était un attrait de plus. Elle excitait les désirs. Et comme elle était une fille pauvre et sans protecteur dans la vie, on ne se gênait pas pour les lui dire. Elle allait quelquefois dans un salon de riches Israélites, les Nathan, qui s'intéressaient à elle pour l'avoir rencontrée chez une famille amie où elle donnait des leçons. Et même, elle n'avait pu se dispenser, malgré sa sauvagerie, d'assister une ou deux fois à leur soirée. Monsieur Alfred Nathan était un professeur connu à Paris, savant éminent, en même temps très mondain, avec ce mélange baroque de science et de frivolité si commun dans la société juive. Chez Madame Nathan se mêlaient dans d'égales proportions une bienfaisance réelle et une mondanité excessive. Tous deux avaient été prodigues envers Antoinette de démonstrations de sympathie bruyantes, sincères, d'ailleurs intermittentes. Antoinette avait trouvé plus de bonté parmi les Juifs que parmi ses coreligionnaires. Ils ont bien des défauts, mais ils ont une grande qualité, la première de toutes, ils sont vivants, ils sont humains. Rien d'humain ne leur est étranger, ils s'intéressent à ceux qui vivent. Même quand il leur manque une vraie et chaude sympathie, ils ont une curiosité perpétuelle qui leur fait rechercher les âmes et les pensées de quelque prix, fussent-elles les plus différentes des leurs. Ce n'est pas qu'ils fassent, en général, grand-chose pour les aider, car ils sont sollicités par trop d'intérêts à la fois, et plus livrés que quiconque aux vanités mondaines, tout en s'en disant libres. Du moins, ils font quelque chose. Et c'est beaucoup dans l'apathie de la société contemporaine. Ils y sont un ferment d'action, un levain de vie. Antoinette, qui s'était heurtée chez les catholiques à un mur d'indifférence glaciale, sentait le prix de l'intérêt, si superficiel fut-il, que lui témoignaient les Nathan. Madame Nathan avait entrevu la vie de dévouement d'Antoinette. Elle était sensible à son charme physique et moral. Elle avait prétendu la prendre sous sa protection. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle aimait la jeunesse, et elle en réunissait souvent chez elle. Elle avait insisté pour qu'Antoinette vînt aussi, qu'elle sortît de son isolement, qu'elle prît quelques distractions. Et comme il lui était facile de deviner que la sauvagerie d'Antoinette tenait en partie à la gêne où elle se trouvait, elle avait voulu lui offrir de jolies toilettes que l'orgueil d'Antoinette avait refusées. Mais l'aimable protectrice s'y était prise de telle sorte qu'elle avait trouvé moyen de la forcer à accepter quelques-uns de ces petits cadeaux qui sont si chers à l'innocente vanité féminine. Antoinette en était à la fois reconnaissante et confuse. Elle se forçait à venir de loin en loin aux soirées de Madame Nathan, et comme elle était jeune, elle y trouvait malgré tout du plaisir. Mais dans ce monde un peu mêlé, où venaient beaucoup de jeunes gens, la petite protégée de Madame Nathan, pauvre et jolie, fut aussitôt le point de mire de deux ou trois polissons qui jetèrent leur dévolu sur elle avec une parfaite assurance. Ils spéculaient d'avance sur sa timidité. Elle fut même l'enjeu de paris entre eux. Elle reçut un jour des lettres anonymes, ou plus exactement, signées d'un noble pseudonyme qui lui faisait une déclaration. Lettres d'amour, d'abord flatteuses, pressantes, fixant un rendez-vous. Puis très vite, plus hardie, essayant de la menace, et bientôt de l'injure, de basse calomnie. Elle la déshabillait, détaillait les secrets de son corps, le salissait de leur grossière convoitise. Elle tâchait de jouer de la naïveté d'Antoinette en lui faisant redouter un outrage public si elle ne venait pas au rendez-vous assigné. Elle pleurait de douleur d'avoir pu s'être attirée de telles propositions. Ces injures brûlaient l'orgueil de son corps et de son cœur. Elle ne savait comment sortir de là. Elle ne voulait pas en parler à son frère. Elle savait qu'il en souffrirait trop, qu'il donnerait à l'affaire un caractère plus grave. Elle n'avait pas d'amis. Recourir à la police, elle s'y refusait par crainte du scandale. Il fallait en finir pourtant. Elle sentait que son silence ne suffirait pas à la défendre, que le drôle qui la poursuivait serait tenace et qu'il irait jusqu'à l'extrême limite où il verrait du danger pour lui. Il venait de lui envoyer une sorte d'ultimatum, lui enjoignant de se trouver le lendemain au musée du Luxembourg. Elle y alla. À force de se torturer l'esprit, elle s'était convaincue que son persécuteur avait dû la rencontrer chez Madame Nathan. Certains mots d'une des lettres faisaient allusion à un fait qui n'avait pu se passer que là. Elle pria Madame Nathan de lui rendre un grand service, de l'accompagner en voiture jusqu'à la porte du musée et de l'attendre un moment. Elle entra. Devant le tableau convenu, le maître chanteur l'aborda, triomphant, et se mit à lui parler avec une courtoisie affectée. Elle le regarda fixement en silence. Quand il eut fini, il lui demanda en plaisantant pourquoi elle l'examinait ainsi. Elle répondit « Je regarde un lâche ». Il ne fut pas interloqué pour si peu et commença à devenir familier. Elle dit « Vous avez voulu me menacer d'un scandale. Je viens vous l'offrir, ce scandale. Le voulez-vous ? » Elle était frémissante, parlait haut, se montrait prête à attirer l'attention sur eux. On les regardait. Il sentit qu'elle ne reculerait devant rien. Il baissa le ton. Elle lui lança, une dernière fois, « Vous êtes un lâche !» et lui tourna le dos. Ne voulant pas avoir l'air battu, il la suivit. Elle sortit du musée avec l'homme sur ses talons. Elle se dirigea droit vers la voiture qui attendait, ouvrit brusquement la portière, et son suiveur se trouva nez à nez avec Madame Nathan, qui le reconnut et le salua de son nom. Il perdit contenance et s'esquiva. Antoinette dut raconter l'histoire à sa compagne. Elle ne le fit qu'à regret et avec une extrême réserve. Il lui était pénible d'introduire une étrangère dans le secret des souffrances de sa pudeur blessée. Madame Nathan lui reprocha de ne l'avoir pas avertie plus tôt. Antoinette la supplia de n'en rien dire à personne. L'aventure en resta là. Et l'ami d'Antoinette n'eut même pas besoin de fermer son salon au personnage, car il ne revint plus. À peu près dans le même temps, Antoinette eut un autre chagrin d'un genre bien différent. Un très honnête homme, d'une quarantaine d'années, chargé d'un poste consulaire en Extrême-Orient et qui était revenu passer quelques mois de congé en France, rencontra Antoinette chez les Nathan. Il s'éprit d'elle. La rencontre avait été arrangée d'avance, à l'insu d'Antoinette, par Madame Nathan, qui s'était mise en tête de marier sa petite amie. Il était israélite, il n'était pas beau. Il était un peu chauve et voûté. Mais il avait de bons yeux, des manières affectueuses et un cœur qui savait compatir à la souffrance, ayant souffert aussi. Antoinette n'était plus la petite fille romanesque d'autrefois, l'enfant gâté qui rêvait de la vie comme d'une promenade que l'on fait par une belle journée avec un amoureux. Elle la voyait maintenant comme un dur combat qu'il fallait recommencer chaque jour sans jamais se reposer, sous peine de perdre en un instant tout le terrain conquis, pouce par pouce, en des années de fatigue. Et elle pensait qu'il serait doux de pouvoir s'appuyer sur le bras d'un ami, de partager sa peine avec lui, de pouvoir un peu fermer les yeux, tandis qu'il veillerait sur elle. Elle savait que c'était un rêve, mais elle n'avait pas encore eu le courage de renoncer tout à fait à ce rêve. Au fond, elle n'ignorait pas qu'une fille sans dot n'avait rien à espérer dans le monde où elle vivait. La vieille bourgeoisie française est connue dans le monde entier pour l'esprit d'intérêt sordide qu'elle apporte au mariage. Les Juifs sont moins bassement avides d'argent. Il n'est pas rare de voir chez eux un jeune homme riche choisir une jeune fille pauvre, ou une jeune fille qui a de la fortune chercher passionnément un homme qui ait de l'intelligence. Mais chez le bourgeois français, catholique et provincial, le sac cherche le sac. Et pourquoi faire, les malheureux? Ils n'ont que des besoins médiocres. Ils ne savent que manger, bailler, dormir, économiser. Antoinette les connaissait. Elle les avait vus depuis l'enfance. Elle les avait vus avec les lunettes de la richesse et avec celles de la pauvreté. Elle n'avait plus d'illusions sur ce qu'elle pouvait en attendre. Aussi, la démarche de l'homme qui lui demanda de l'épouser lui fut-elle d'une douceur inespérée. Sans l'aimer d'abord, elle se sentit pénétrée pour lui peu à peu d'une reconnaissance et d'une tendresse profonde. Elle eût accepté sa demande s'il n'avait fallu le suivre aux colonies et abandonner son frère. Elle refusa. Et son ami, tout en comprenant la noblesse de ses raisons, ne le lui pardonna point. L'égoïsme de l'amour n'admet point qu'on ne lui sacrifie pas jusqu'aux vertus qui lui sont le plus chères dans l'être aimé. Il cessa de la voir. Il ne lui écrivit plus après qu'il fut parti. Elle n'eut plus aucune nouvelle de lui jusqu'au jour où elle apprit, 5 ou 6 mois plus tard, par une lettre de faire part dont l'adresse était de sa main, qu'il avait épousé une autre femme. Ce fut une grande tristesse pour Antoinette. Une fois de plus navrée, elle offrit sa souffrance à Dieu. Elle voulut se persuader qu'elle était justement punie d'avoir perdu de vue un instant sa tâche unique qui était de se dévouer à son frère. Et elle s'y absorba. Elle se retira tout à fait du monde. Elle avait cessé d'aller chez les Nathan, qui étaient en froid avec elle depuis qu'elle avait refusé le parti qu'ils lui offraient. Eux non plus n'avaient pas admis ses raisons. Madame Nathan, qui avait décrété d'avance que ce mariage se ferait et qu'il serait parfait, avait été froissée dans son amour-propre qu'il ne se fit pas, par la faute d'Antoinette. Elle trouvait ses scrupules fort estimables, assurément, mais d'une sentimentalité exagérée. Et du jour au lendemain, elle se désintéressa de cette petite oie. Son besoin de faire le bien aux gens avec ou malgré leur consentement venait d'élire une autre protégée qui absorbait pour l'instant toute la somme d'intérêt et de dévouement qu'elle avait à dépenser. Olivier ne savait rien des romans douloureux qui se passaient dans le cœur de sa sœur. C'était un garçon sentimental et léger qui vivait dans ses rêvasseries. Il était bien aléatoire de rien fonder sur lui, malgré son esprit vif et charmant, et son cœur qui était un trésor de tendresse, comme celui d'Antoinette. Constamment, il compromettait des mois d'efforts par des inconséquences, des découragements, des flâneries, des amours de tête, où il perdait son temps et ses forces. Il s'éprenait de jolies figures entrevues, de petites filles coquettes, avec qui il avait causé une fois dans un salon, et qui ne faisaient aucune attention à lui. Il s'engouait pour une lecture, un poème, une musique. Il s'y enfonçait pendant des mois, d'une façon exclusive, au détriment de ses études. Il fallait le surveiller sans cesse, en ayant grand soin qu'il ne s'en aperçût point, de peur de le blesser. Des coups de tête étaient toujours à redouter. Il avait cette surexcitation fébrile, ce manque d'équilibre, cette trépidation inquiète que l'on rencontre chez ceux que guette la phtisie. Le médecin n'avait pas caché le danger à Antoinette. Cette plante déjà maladive, transplantée de province à Paris, aurait eu besoin de bon air et de lumière. Antoinette ne pouvait les lui donner. Il n'avait pas assez d'argent pour s'éloigner de Paris pendant les vacances. Le reste de l'année, ils étaient pris, toute la semaine, par leurs tâches. Et le dimanche, ils étaient si fatigués qu'ils n'avaient pas envie de sortir, sinon pour aller au concert. Certains dimanches d'été, Antoinette faisait pourtant un effort et entraînait Olivier dans les bois des environs, du côté de Chaville ou de Saint-Cloud. Mais les bois étaient remplis de couples bruyants, de chansons de café-concert et de papiers graisseux. Ce n'était pas la divine solitude qui repose et purifie. Et le soir, pour rentrer, la cohue des trains, l'empilement suffocant dans les honteux wagons de la banlieue, bas, étroit et obscur, le bruit, les rires, les chants, la grivoiserie, la puanteur, la fumée de tabac. Antoinette et Olivier, qui n'avaient ni l'un ni l'autre l'âme populaire, revenaient dégoûtés, démoralisés. Olivier suppliait Antoinette de ne plus recommencer les promenades, et Antoinette n'avait plus le cœur de le faire avant un certain temps. Elle persistait pourtant, bien que ce lui fût désagréable plus encore qu'à Olivier. Elle croyait que c'était nécessaire à la santé de son frère. Elle l'obligeait à se promener de nouveau. Ses nouvelles expériences n'étaient pas plus heureuses, et Olivier les lui reprochait amèrement. Alors ils restaient bloqués dans la ville étouffante, et de leur cour de prison, ils soupiraient après les champs. La dernière année d'études était venue. Les examens de l'école normale étaient au bout. Il était temps. Antoinette se sentait bien lasse. Elle comptait sur le succès. Son frère avait pour lui toutes les chances. Au lycée, on le regardait comme un des meilleurs candidats. Tous ses professeurs s'accordaient à louer son travail et son intelligence. À part une indiscipline d'esprit qui lui rendait difficile de se plier à quelque plan que ce fût. Mais la responsabilité qui pesait sur Olivier l'accablait tellement qu'il en perdait ses moyens à mesure qu'il approchait de l'examen. Une extrême fatigue, la crainte d'échouer et une timidité maladive le paralysaient d'avance. Il tremblait à la pensée de paraître en public devant ses juges. Il avait toujours souffert de sa timidité. En classe, il rougissait, il avait la gorge serrée quand il lui fallait parler. Tout au plus si, dans les premiers temps, il pouvait répondre à l'appel de son nom. Encore lui était-il beaucoup plus facile de répondre à l'improviste que lorsqu'il savait qu'on allait l'interroger. Alors, il en était malade. Sa tête ne cessait de travailler, lui représentant tous les détails de ce qui allait se passer. Et plus il avait à attendre, plus il en était obsédé. On pouvait dire qu'il n'y avait pas d'examen qu'il n'eût passé au moins deux fois, car il le passait en rêve dans les nuits qui précédaient, et il y dépensait son énergie. Aussi ne lui en restait-il plus pour l'examen réel. Mais il n'arriva même pas à ce terrible oral dont la pensée, la nuit, lui donnait des sueurs froides. À l'écrit, sur un sujet de philosophie, capable de le passionner en temps ordinaire, il n'arriva même pas à écrire deux pages en 6 heures. Pendant les premières heures, il avait un vide dans le cerveau, il ne pensait à rien, rien. C'était comme un mur noir contre lequel il venait se briser. 1 heure avant la fin de l'épreuve, le mur se fendit et quelques rayons de lumière jaillirent à travers les fentes. Alors il écrivit quelques lignes excellentes, mais insuffisantes à le faire classer. À l'accablement où il était, Antoinette prévit l'échec inévitable, et elle en fut aussi abattue que lui, mais elle ne le montra pas. Elle avait d'ailleurs, même dans les situations désespérées, un pouvoir d'espérance inlassable. Olivier fut refusé. Il était atterré. Antoinette feignait de sourire, comme si ce n'était pas grave, mais ses lèvres tremblaient. Elle consola son frère, elle lui dit que c'était une malchance facilement réparable, qu'il serait sûrement reçu l'an prochain et dans un meilleur rang. Elle ne lui dit pas combien il lui fallut pour elle qu'il réussît cette année, combien elle se sentait usée de corps et d'âme, quelles inquiétudes elle avait de ne pouvoir recommencer une année comme celle-là. Cependant, il le valait. Si elle disparaissait, avant qu'Olivier fût reçu, jamais il n'aurait le courage, seul, de continuer la lutte. Il serait dévoré par la vie. Elle lui cacha donc sa fatigue. Elle redoubla d'efforts. Elle se saigna pour lui procurer quelques distractions pendant les vacances, afin qu'à la rentrée, il pût reprendre le travail avec plus de force. Mais à la rentrée, sa petite réserve se trouva entamée, et par surcroît, elle perdit les leçons qui lui rapportaient le plus. Encore une année. Les deux enfants étaient tendus jusqu'à se briser en vue de l'épreuve finale. Avant tout, il fallait vivre et chercher d'autres ressources. Antoinette accepta une place d'institutrice qu'on lui offrait en Allemagne, grâce au Nathan. C'était le dernier parti auquel elle se fut arrêtée. Mais il n'en était pas d'autre pour le moment, et elle ne pouvait attendre. Jamais elle n'avait quitté son frère un seul jour depuis 6 ans. Et elle ne concevait même pas ce que pourrait être sa vie maintenant sans le voir et l'entendre. Olivier n'y pensait pas sans terreur, mais il n'osait rien dire. Cette misère était sa faute. S'il avait été reçu, Antoinette n'eût pas été réduite à cette extrémité. Il n'avait pas le droit de s'y opposer, de mettre en ligne de compte son propre chagrin. Elle seule devait décider. Ils passèrent les dernières journées ensemble dans une douleur muette, comme si l'un d'eux allait mourir. Ils allaient se cacher quand leur peine était trop forte. Antoinette cherchait conseil dans les yeux d'Olivier. S'il lui avait dit « ne pars pas », elle ne serait pas partie, bien qu'il fallût partir. Jusqu'à la dernière heure, dans le fiacre qui les emportait tous deux à la gare de l'Est, elle fut prête de renoncer à sa résolution. Elle ne se sentait plus la force de l'accomplir. Un mot de lui, un mot, mais il ne le dit pas. Il se raidissait comme elle. Elle lui fit promettre qu'il lui écrirait tous les jours, qu'il ne lui cacherait rien, et qu'à la moindre alerte, il la ferait revenir. Elle partit. Tandis qu'Olivier rentrait, le cœur glacé, au dortoir du lycée, où il avait accepté d'être mis en pension, le train emportait Antoinette douloureuse et transie. Les yeux ouverts dans la nuit, tous deux sentaient chaque minute les éloigner l'un de l'autre. Et ils s'appelaient tout bas. Antoinette avait l'effroi du monde où elle allait. Elle avait bien changé depuis 6 ans. Elle, si hardie naguère, et que rien n'intimidait, elle avait pris une telle habitude du silence et de l'isolement que ce lui était une souffrance d'en sortir. L'Antoinette rieuse, bavarde et gaie des jours de bonheur passés, était morte avec eux. Le malheur l'avait rendue sauvage. Sans doute, à vivre avec Olivier, elle avait fini par subir la contagion de sa timidité. Sauf avec son frère, elle avait peine à parler. Tout l'effarouchait, une visite lui faisait peur. Aussi, elle avait une angoisse nerveuse à la pensée qu'il lui faudrait vivre chez les étrangers, causer avec eux, être constamment en scène. La pauvre petite n'avait, pas plus que son frère, la vocation du professorat. Elle s'en acquittait en conscience, mais elle n'y croyait pas, et elle ne pouvait être soutenue par le sentiment de l'utilité de sa tâche. Elle était faite pour aimer et non pour instruire. Et de son amour, nul ne se souciait. Nulle part, elle n'en trouva moins l'emploi que dans sa place nouvelle en Allemagne. Les Grünebaum, chez qui elle était chargée d'apprendre le français aux enfants, ne lui témoignèrent pas le moindre intérêt. Ils étaient rogues et familiers, indifférents et indiscrets. Ils payaient assez bien, moyennant quoi, ils regardaient comme leur obligé celui qui touchait leur argent, et ils se croyaient tout permis avec lui. Ils traitaient Antoinette comme une sorte de domestique, un peu plus relevée, et ne lui laissait presque aucune liberté. Elle n'avait même pas de chambre à elle. Elle couchait dans un cabinet attenant à la chambre des enfants et dont la porte restait ouverte la nuit. Elle n'était jamais seule. On ne respectait pas le besoin qu'elle avait de se réfugier de temps en temps en soi, le droit sacré qu'a tout être à la solitude intérieure. Tout son bonheur était de se retrouver mentalement avec son frère, de converser avec lui. Elle profitait des moindres instants de liberté. Mais on les lui disputait. Dès qu'elle écrivait un mot, on rôdait autour d'elle, dans la chambre, on l'interrogeait sur ce qu'elle écrivait. Quand elle lisait une lettre, on lui demandait ce qu'il y avait dedans. Avec une familiarité goguenarde, on s'informait du petit frère. Il lui fallait se cacher. On rougirait de raconter à quels expédients elle était contrainte parfois et dans quel réduit elle devait s'enfermer pour lire, sans être vue, les lettres d'Olivier. Si elle laissait une lettre traîner dans sa chambre, elle était sûre qu'on la lisait. Et comme elle n'avait en dehors de sa malle aucun meuble qui fermât, elle était obligée d'emporter sur elle tous les papiers qu'elle ne voulait pas qu'on lût. On furetait constamment dans ses affaires et dans son cœur. On s'efforçait de crocheter les secrets de sa pensée. Ce n'était pas que les Grünebaum s'y intéressassent, mais ils jugeaient qu'elle leur appartenait puisqu'ils la payaient. Au reste, ils n'y mettaient pas malice. L'indiscrétion était chez eux une habitude invétérée. Ils ne s'en offusquaient pas entre eux. Rien ne pouvait être plus intolérable à Antoinette que cet espionnage, ce manque de pudeur morale, qui ne lui permettait pas, 1 heure par jour, d'échapper aux regards indiscrets. La réserve un peu hautaine qu'elle opposait aux Grünebaum les blessait. Naturellement, ils trouvaient des raisons de haute moralité pour légitimer leur curiosité grossière et pour condamner la prétention d'Antoinette à s'y dérober. C'était leur devoir, pensait-il, de connaître la vie intime d'une jeune fille qui était logée chez eux, qui faisait partie de leur maison, et à qui ils avaient confié l'éducation de leurs enfants. Ils en étaient responsables. C'est ce que disent de leurs domestiques tant de maîtresses de maison dont la responsabilité ne va pas jusqu'à épargner à ces malheureuses une seule fatigue et un seul dégoût, mais se borne à leur interdire toute espèce de plaisir. Pour qu'Antoinette se refusât à reconnaître ce devoir de conscience, il fallait, concluait-il, qu'elle ne se sentît pas sans reproche. Une fille honnête n'a rien à cacher. Ainsi s'établissait autour d'Antoinette une persécution de tous les instants, contre laquelle elle se tenait constamment en défense, et qui la faisait paraître encore plus froide et plus concentrée qu'à l'ordinaire. Son frère lui écrivait chaque jour des lettres de 12 pages, et elle réussissait aussi chaque jour à lui écrire ne fût-ce que 2 ou 3 lignes. Olivier s'efforçait d'être un brave petit homme et de ne pas trop montrer son chagrin, mais il mourait d'ennui. Sa vie avait toujours été si indissolublement liée à celle de sa sœur que maintenant qu'on l'en avait arrachée, il lui semblait avoir perdu la moitié de son être. Il ne savait plus user de ses bras, de ses jambes, de sa pensée. Il ne savait plus se promener. Il ne savait plus jouer du piano. Il ne savait plus travailler, ni ne rien faire, ni rêver, si ce n'était à elle. Il s'acharnait sur ses livres du matin au soir, mais il ne faisait rien de bon. Sa pensée était ailleurs. Il souffrait ou il pensait à elle. Il pensait à la lettre de la veille. Les yeux fixés sur l'horloge, il attendait la lettre d'aujourd'hui. Et quand elle arrivait, ses doigts tremblaient de joie, de peur aussi, en déchirant l'enveloppe. Jamais lettre d'amoureuse ne causa aux mains de l'amoureux un tel frémissement de tendresse inquiète. Il se cachait comme Antoinette pour lire ses lettres. Il les portait toutes sur lui. Et la nuit, il avait sous son oreiller la dernière reçue. Il la touchait de temps en temps pour s'assurer qu'elle était toujours là, dans les longues insomnies où il rêvait de sa chère petite. Comme il se sentait loin d'elle, il en était particulièrement oppressé quand un retard de la poste lui faisait parvenir la lettre d'Antoinette le surlendemain du jour où elle l'avait envoyée. 2 jours, 2 nuits entre eux. Il s'exagérait le temps et la distance, d'autant plus qu'il n'avait jamais voyagé. Son imagination travaillait. Dieu, si elle tombait malade! Elle aurait le temps de mourir avant qu'il ne pût la revoir. Pourquoi ne lui avait-elle écrit que quelques lignes, la veille? Si elle était malade? Oui, elle était malade. Il suffoquait. Plus souvent encore, il avait l'épouvante de mourir loin d'elle, seul au milieu de ses indifférents, dans ce lycée repoussant, dans ce triste Paris. À force d'y penser, il devenait malade. S'il lui écrivait de revenir. Mais il rougissait de sa lâcheté. D'ailleurs, dès qu'il lui écrivait, c'était un tel bonheur de s'entretenir avec elle qu'il en oubliait pour un instant ce qu'il souffrait. Il avait l'illusion de la voir, de l'entendre, et il lui racontait tout. Jamais il ne lui avait parlé si intimement, si passionnément, quand ils étaient ensemble. Il l'appelait « ma fidèle, ma brave, ma chère bonne bien-aimée petite sœur que j'aime tant ». C'était de vraies lettres d'amour. Elle baignait de leur tendresse Antoinette. Elles étaient tout l'air respirable de ses journées. Quand elle n'arrivait pas, le matin, à l'heure attendue, elle était malheureuse. Il advint que 2 ou 3 fois, les Grunebaum, par indifférence, ou, qui sait, par une sorte de taquinerie méchante, oublièrent de les lui remettre jusqu'au soir, une fois même jusqu'au lendemain matin. Elle en eut la fièvre. Pour le jour de l'an, les 2 enfants eurent la même idée, sans s'être concertés. Ils se firent la surprise de s'envoyer tous deux une longue dépêche, cela coûtait bien cher, qui leur arriva à la même heure à tous deux. Olivier continuait de consulter Antoinette sur ses travaux et sur ses doutes. Antoinette le conseillait, le soutenait, lui soufflait sa force. Elle n'en avait pas trop pour elle-même. Elle étouffait dans ce pays étranger où elle ne connaissait personne, où personne ne s'intéressait à elle, à part la femme d'un professeur qui était venu s'installer depuis peu dans la ville, et qui s'y trouvait dépaysée, elle aussi. La brave personne était assez maternelle et compatissait à la peine des 2 enfants séparés qui s'aimaient, car elle avait arraché à Antoinette une partie de son histoire. Mais elle était si bruyante, si commune, elle manquait à un tel point de tact et de discrétion que l'aristocratique petite âme d'Antoinette se repliait effarouchée. Ne pouvant se confier à personne, elle amassait en elle tous ses soucis. C'était un poids bien lourd. Par moments, elle croyait qu'elle allait tomber, mais elle serrait les lèvres et se remettait en marche. Sa santé était atteinte, elle maigrissait beaucoup. Les lettres de son frère se faisaient de plus en plus découragées. Dans une crise d'abattement, il écrivit « Reviens, reviens, reviens !» Mais la lettre n'était pas envoyée qu'il en avait honte. et il en écrivait une autre où il suppliait Antoinette de déchirer la première et de n'y plus penser. Il affectait même d'être gai et de n'avoir pas besoin de sa sœur. Son amour-propre ombrageux souffrait qu'on pût croire qu'il était incapable de se passer d'elle. Antoinette ne s'y trompait pas, elle lisait ses pensées, mais elle ne savait que faire. Un jour, elle était sur le point de partir, elle allait à la gare pour connaître exactement l'heure du train pour Paris. Et puis, elle se disait que c'était une folie. L'argent qu'elle gagnait ici servait à payer la pension d'Olivier. Tant qu'ils pourraient tenir tous deux, il fallait tenir. Elle n'avait plus l'énergie de prendre une décision. Le matin, sa vaillance renaissait. Mais à mesure qu'approchait l'ombre du soir, sa force défaillait, elle pensait à fuir. Elle avait le mal du pays, de ce pays qui avait été bien dur pour elle, mais où étaient ensevelées toutes les reliques de son passé. Elle avait la nostalgie de cette langue que parlait son frère et dans laquelle s'exprimait son amour pour lui. Ce fut alors qu'une troupe de comédiens français passa par la petite ville allemande. Antoinette, qui allait rarement au théâtre, elle n'en avait ni le temps ni le goût, fut prise du besoin irrésistible d'entendre parler sa langue, de se réfugier en France. On sait le reste. Il n'y avait plus de place au théâtre. Elle rencontra le jeune musicien Jean-Christophe, qu'elle ne connaissait pas, mais qui, voyant son désappointement, lui offrit de partager une loge dont il disposait. Elle accepta étourdiment. Sa présence avec Christophe fit jaser la petite ville. Et ces bruits malveillants arrivèrent aussitôt aux oreilles des Grunebaum, qui, déjà disposé à admettre toutes les suppositions désobligeantes sur le compte de la jeune Française, et exaspéré contre Christophe, à la suite de certaines circonstances que nous avons racontées ailleurs, donnèrent brutalement congé à Antoinette. Cette âme chaste et rougissante, que son amour fraternel avait tout entière possédée, sauvée de toute souillure de pensée, crut mourir de honte quand elle comprit ce dont on l'accusait. Pas un instant elle n'en voulut à Christophe. Elle savait qu'il était aussi innocent qu'elle, et que s'il lui avait fait du mal, c'était en voulant lui faire du bien. Elle lui était reconnaissante. Elle ne savait rien de lui, sinon qu'il était musicien et qu'il était fort attaqué. Mais dans son ignorance de la vie et des hommes, elle avait une intuition naturelle des âmes que la misère avait aiguisée. Elle avait reconnu dans son voisin de théâtre, mal élevé, un peu fou, une candeur égale à la sienne, et une virile bonté dont le seul souvenir lui était bienfaisant. Le mal qu'elle avait entendu dire de lui n'atteignait point la confiance que Christophe lui avait inspirée. Victime elle-même, elle ne doutait pas qu'il ne fût une autre victime, souffrant comme elle et depuis plus longtemps de la méchanceté de ces gens qui l'outrageaient. Et comme elle avait pris l'habitude de s'oublier pour penser aux autres, l'idée de ce que Christophe avait dû souffrir la distrayait un peu de son propre chagrin. Pour rien au monde, elle n'eût cherché à le revoir, ni à lui écrire. Un instinct de pudeur et de fierté le lui défendait. Elle se dit qu'il ignorait le tort qu'il lui avait causé, et dans sa bonté, elle souhaita qu'il l'ignorât toujours. Elle partit. Le hasard voulut qu'à 1 heure de la ville, le train qui l'emportait se croisa avec celui qui ramenait Christophe d'une ville voisine, où il avait passé la journée. De leurs wagons qui stationnèrent quelques minutes l'un à côté de l'autre, ils se virent tous deux dans le silence de la nuit, et ils ne se parlèrent pas. Qu'aurait-il pu se dire que des paroles banales? Elles eussent profané le sentiment indéfinissable de commune pitié et de sympathie mystérieuse qui était né entre eux, et qui ne reposait sur rien que sur la certitude de leur vision intérieure. Dans cette dernière seconde où, inconnus l'un à l'autre, ils se regardaient, ils se virent tous deux comme aucun de ceux qui vivaient avec eux ne les avait jamais vus. Tout passe, le souvenir des paroles, des baisers, de l'étreinte des corps amoureux. Mais le contact des âmes qui se sont une fois touchées et se sont reconnues parmi la foule des formes éphémères ne s'efface jamais. Antoinette l'emporta dans le secret de son cœur. Ce cœur enveloppé de tristesse, mais au centre desquels souriait une lumière voilée, pareille à celle qui baigne les ombres élyséennes d'Orphée.